94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de CHIZ 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur CHIZ 94.3.
The following program is disturbing.
Cash Crowd.
Mardi 20h.
CHIZ 94.3.
D'écoute!
Henri n'en apprend plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval. Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et CHIZ 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Questions de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado-diffusion.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de CHIZ 94.3 et ce soir, nous recevons l'historien Jean-François Caron pour une émission sur l'histoire du Faubourg Saint-Jean. C'est une émission bien spéciale ce soir puisqu'elle s'intègre dans le cadre de la programmation du Printemps Saint-Jean-Baptiste, un événement organisé par la Société historique de Québec qui se tient virtuellement essentiellement, mais quelques activités que vous pourrez faire par vous-même dans la ville même de Québec. Donc, du 20 mars au 20 juin 2021. Si vous n'avez pas vu la programmation, je vous recommande fortement d'aller y jeter un coup d'œil sur le site de la Société historique de Québec, donc le www.sociétéhistoriquedequebec.qc.ca. Ce soir, à l'animation, vous vous retrouvez en compagnie de moi-même, Amy Bois, et ainsi qu'en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche, que vous connaissez à titre d'animateur de l'émission, mais qui est également historien et président de la Société historique de Québec. Bonsoir, Alex.
Bonsoir, Amy.
Maintenant, sans plus tarder, je vous présente notre invité de ce soir, donc M. Jean-François Caron, historien spécialiste de l'histoire de la ville de Québec. Fréquemment, M. Caron est sollicité par les grands médias afin d'expliquer certaines particularités historiques de la ville de Québec. Aux éditions du GIDE, il a d'ailleurs fait paraître deux ouvrages qui traitent de ces particularités. Au mois de mai paraîtra notamment un troisième tome des curiosités de Québec, donc aux éditions du GIDE, troisième tome qui s'annonce très, très intéressant, donc on va surveiller la sortie. M. Caron a fait carrière à l'agence Parc Canada. Il a également travaillé plusieurs années en toponymie. Donc, il a travaillé à la production du répertoire des toponymes de la ville de Québec. Depuis plusieurs années, il s'implique activement au sein de la Société historique de Québec. Il a fait paraître... il fait partie intégrante plutôt de l'équipe du Printemps Saint-Jean-Baptiste pour lequel il rédige des capsules historiques chaque mercredi, donc sur la page de la Société historique de Québec, en plus d'avoir écrit un article sur la cimenterie du Faubourg Saint-Jean dans le Québécoisien qui paraîtra au mois de mai. Donc, le mois de mai s'annonce un gros mois puisque M. Caron fera également paraître un photoreportage sur le quartier Saint-Jean-Baptiste dans le Journal de Québec. Donc, gros mois qui s'annonce, Monsieur Caron. Bienvenue aux 3600 secondes d'histoire. Bien heureux de vous recevoir.
Bien, bonsoir, merci.
Donc, si vous le voulez bien, messieurs, commençons donc à découvrir ensemble l'histoire du Faubourg Saint-Jean. Donc, quand et comment, M. Caron, naît le Faubourg Saint-Jean?
D'abord, le Faubourg Saint-Jean est né petit à petit. Il est même mort et rené, si je peux m'exprimer ainsi, à plusieurs reprises. En fait, en 1639, la Compagnie des Cent Associés va concéder à l'arpenteur et ingénieur Jean Bourdon une terre qui est comprise entre la Grande Allée et le coteau Sainte-Geneviève, le versant nord, qui était situé approximativement là, entre les actuelles rues Belvédère et Meuret. Meuret qu'on appelait justement à l'époque le chemin Bourdon. Et pour se rendre à son fief, Jean Bourdon avait tracé un petit chemin qui partait de Québec et qui longeait ce qui va devenir la rue Saint-Jean et le chemin Sainte-Foy. Les gens vont toujours s'installer près d'un cours d'eau ou près d'une route. Alors, c'est exactement ce qui va arriver avec le faubourg Saint-Jean. Il y a ce chemin-là qui passe et les gens vont se construire, vont s'établir de chaque côté de cette route-là, de la route Saint-Jean qu'on appelait à l'époque.
Et donc, si je comprends bien, le faubourg Saint-Jean, c'est pas exactement le quartier Saint-Jean-Baptiste actuel. Qu'est-ce qui a amené ces différences-là?
Bien, le quartier va beaucoup évoluer avant d'avoir le périmètre, je dirais, municipal actuel. D'abord, à l'époque des premières fortifications, où la porte Saint-Jean était située approximativement sur la rue Saint-Jean à la hauteur de la rue Saint-Stanislas, bien, à l'extérieur du mur, il y a déjà des petites maisons qui vont se construire. Et lorsqu'on va agrandir le périmètre des fortifications à 1745, on va démolir ces maisons-là parce qu'ils vont tomber dans le système de fortification. Et petit à petit, il va se reconstruire des petites maisons au pied du glacis. À l'avant des fortifications, il y a une petite pente douce sur laquelle on ne construit rien qui s'appelle un glacis. Et c'est pour pouvoir voir venir l'ennemi. Et au pied du glacis, qui serait à peu près aujourd'hui l'avenue Honoré-Mercier, environ. Alors, il va commencer encore une fois dans les années 1760 là, à se construire des habitations. Quand va arriver l'invasion américaine en 1775, on a peur que les rebelles américains aillent prendre ce petit quartier-là. Un petit quartier, là, on parle peut-être 15, 20, 25 maisons, là, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et pour éviter que les rebelles s'installent là, on va raser le quartier. Encore une fois, c'est l'embryon du faubourg Saint-Jean, on vient de le raser encore une fois. Et là, après ces événements-là, bien, les maisons vont se reconstruire tranquillement et ça va se développer de part en part de la rue Saint-Jean comme ça. Le quartier, on va en parler, j'imagine, plus tard. Là, le quartier va passer au feu à différents moments. Donc, c'est un quartier qui va renaître constamment. Les gens ont vraiment beaucoup de résilience au fil du temps dans ce quartier-là. Et donc, le quartier va grossir. Puis, il va évoluer physiquement. Pour s'étendre, finalement, de la falaise, là, du coteau Sainte-Geneviève jusqu'à la Grande Allée. Vers 1840, l'administration municipale va couper le quartier en deux. Il va avoir de chaque côté de la rue Saint-Jean ce qu'on va appeler le faubourg Saint-Jean. Et en haut, de chaque côté de la rue Saint-Louis, on va appeler ça le faubourg Saint-Louis. Ça correspond un peu à la colline parlementaire. Évidemment, le quartier va grossir. Pour atteindre à la fin du 19e siècle, je vous dirais, sa superficie actuelle. Alors, il est facile à délimiter. À l'ouest, bien, c'est l'avenue de Salaberry. Au nord, bien, c'est la falaise, c'est le versant nord, le coteau Sainte-Geneviève. Du côté est, bien, c'était les fortifications au pied du glacis. Maintenant, c'est vraiment l'autoroute, la route de la rue Honoré-Mercier. Et au sud, bien, là, c'est un petit peu plus compliqué, il fait un peu de zigzag. Là, c'est à partir d'Honoré-Mercier, bien, c'est René Lévesque. Et à partir de la Chevrotière, là, on monte vers la Grande Allée, Chevrotière, Jacques Parizeau, jusqu'à la Grande Allée. Après ça, ben, on rejoint Salaberry. Alors, c'est ça le quartier actuel. Mais comme vous le voyez, ça a beaucoup évolué au fil du temps physiquement.
Donc là, vous avez parlé de 1840, qui est comme une date où le quartier, le faubourg va prendre un nom. Donc, pourquoi a-t-on appelé le faubourg par le toponyme Saint-Jean?
OK. Il s'appelle Saint-Jean. Mais curieusement, il aurait très bien pu s'appeler le faubourg Saint-François. Je vous explique pourquoi. Jean Bourdon se faisait appeler Monsieur de Saint-Jean. Alors, les gens vont appeler la route qui mène à son fief, les gens vont appeler ça le chemin Saint-Jean. C'est ce qui va devenir la rue Saint-Jean et une partie du chemin Sainte-Foy. Et puis, le quartier, ben, forcément, va devenir le faubourg Saint-Jean. Puis Saint-Jean-Baptiste, ça sort d'où? Bien, un jour, il y a une paroisse qui va se créer. On en reparlera plus en détail plus loin, si vous le voulez. Mais quand on a un quartier qui s'appelle Saint-Jean, puis qu'on établit une paroisse, bon, on va l'appeler Saint-Jean-Baptiste. C'est très près, puis c'est moins compliqué que de changer de nom, là. Alors, le quartier va devenir le quartier Saint-Jean-Baptiste. Il s'est déjà appelé au début du 19e siècle le quartier Sainte-Geneviève à cause du faubourg du coteau Sainte-Geneviève. Mais rapidement, on va toujours parler du quartier ou du faubourg Saint-Jean ou Saint-Jean-Baptiste en raison, ultimement, de Jean Bourdon. Mais comme je vous le disais, on aurait très bien pu parler du chemin Saint-François et du faubourg Saint-François. Mais c'est Saint-Jean. Pourquoi Saint-François? Parce qu'il se faisait appeler aussi Sieur Saint-François. Alors, tout simplement.
Donc, le Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas de lien dans ça.
Saint-Jean-Baptiste, ben, c'est parce que Jean Bourdon, le chemin Saint-Jean à cause de Sieur Saint-Jean. Mm-hmm. Quand on va rendre ça religieux avec la création d'une paroisse, ben, on va glisser vers Saint-Jean-Baptiste.
OK.
Donc, on va souvent chercher.
Et tout ça, ultimement, tout ça démarre par Jean Bourdon, qu'on appelait Monsieur de Saint-Jean.
OK. Hey, c'est très intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Alex?
Ben, je vais juste dire spontanément, on va souvent chercher les noms, des noms de saints qui sont collés à des personnalités liées à certains coins. Dans le coin de Luzville, ben, c'est Sainte-Luce, Sainte-Flavie, etc. Ben, si je ne m'abuse, c'est Saint-Angèle, c'est le nom des seigneuresses du coin. Même chose souvent dans plein d'endroits. Et donc, ben, on va avec un toponyme religieux, mais qui au final part d'une personne bien
réelle. On appelle ça l'agionyme. C'est si on veut commémorer, on veut rendre hommage à Alex Tremblay, ben on va appeler ça la rue Saint-Alex. C'était une pratique courante. Mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on appelait Jean Bourdon Monsieur de Saint-Jean. Alors.
Et au moment où le Saint-Jean-Baptiste va devenir patron des Canadiens français, ça semble donc logique que le quartier s'appelle Saint-Jean-Baptiste.
Tout simplement. Il s'appelait déjà Saint-Jean. Alors, qu'à choisir un saint, ben on.
Exact.
Ça aurait pu être Saint-Jean l'évangéliste, on a choisi Saint-Jean-Baptiste.
Donc, déjà, le temps d'écouter notre première pièce musicale, mais après la pause, restez avec nous. Nous allons continuer à passer en revue la vie, l'histoire du faubourg Saint-Jean. Donc, écoutons une chanson enregistrée en 1928 de Conrad Gauthier, folkloriste, chanteur et comédien. La chanson s'intitule « La Saint-Jean-Baptiste » et se rapporte donc à ce temps de réjouissance qui sera proclamé en 1977, fête nationale du Québec, hein, vous l'avez compris, de la Saint-Jean, par le gouvernement de René Lévesque. Bonne écoute.
Figurez-vous qu'à tous les ans, figurez-vous qu'à tous les ans, je dis à ma vieille, il faut pourtant, je dis à ma vieille, il faut pourtant, qu'on aille pendant qu'on existe, voir passer la Saint-Jean-Baptiste. À force de la tourmenter, j'ai fini par la décider. À Montréal, en arrivant, à Montréal en arrivant, comme on était des habitants, comme on était des habitants, la première chose qu'on a dû faire, c'était de se renseigner, c'est clair, pour voir comme de raison où ce que passait la procession. Comme je demandais ce renseignement, comme je demandais ce renseignement, on m'envoyait au pied du courant, on m'envoyait au pied du courant. Ça fait que je rentre ma vieille, ça pas de bon sens, une chose pareille. Hey, hey, ça après bateau, la procession passe pas dans l'eau. Catherine me dit, on va y aller, Catherine me dit, on va y aller. C'est pas bien loin, on va marcher, c'est pas bien loin, on va marcher. Au pied du courant, on s'amène, c'est à la bon vienne de bon vienne, que la procession passait. Puis du monde, je vous dis qu'il y en avait. Franchement aussi vrai que vous êtes là, franchement aussi vrai que vous êtes là, j'avais jamais rien vu comme ça, j'avais jamais rien vu comme ça. Il y avait des bandes puis de la musique, il y avait des corps parigoriques, des gens de tous les métiers, des juges puis des marguillés. Figurez-vous que tout d'un coup, figurez-vous que tout d'un coup, je vois venir petit comte de Parfinou, je vois venir petit comte de Parfinou. J'y ai qu'un wack, allô, petit comte, mais v'là-t'y pas qu'un bouton jaune me crie, hey, pas tant de train, All right, que je dis, je le verrai demain. Comme de raison, ça m'a saisi. Comme de raison, ça m'a saisi. Mais tout d'un coup, j'entends des cris. Mais tout d'un coup, j'entends des cris. Ma vieille me pousse, puis me dit, variste, regarde dans le beau petit Saint-Jean-Baptiste. Oh, viande, quand je l'ai vu, je criais hurra comme un pardu. Il se faisait tort comme de raison. Il se faisait tort comme de raison. J'agrafe la bonne femme, puis au don. J'agrafe la bonne femme, puis au don. On pâte les petits pour la campagne, mais ça fait rien que les vieilles chibagnes. Me souviendrai certain de la procession du 24 juin.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'histoire du Faubourg Saint-Jean en compagnie de l'historien Jean-François Caron. Donc, M. Caron, continuons donc à découvrir l'histoire ensemble de ce faubourg. La Porte Saint-Jean, hein, que tout le monde connaît, c'est un symbole historique et architectural fort du Vieux-Québec. Est-ce que cette porte-là a joué un rôle dans le développement du quartier Saint-Jean-Baptiste, donc au 18e siècle et au 19e siècle?
Je vous dirais que c'est pas tant la porte qui a joué un rôle puis qui a eu une influence sur le développement du quartier. Ce serait plutôt les fortifications. La porte s'inscrit dans les fortifications, puis c'est plutôt les fortifications qui ont fait que le quartier va se développer en face des fortifications, au pied du glacis. À l'intérieur des fortifications, bien, déjà, c'était plein, si je peux m'exprimer ainsi. Communauté religieuse, beaucoup de notables qui étaient à l'intérieur. Les loyers, les terrains coûtaient très cher. Alors, quand il arrive des artisans, ils ne peuvent pas vraiment aller s'installer à l'intérieur du bourg. Donc, ils vont aller à l'extérieur, dans la banlieue, dans le faubourg. Et c'est là que va naître le quartier, de part en part de la rue Saint-Jean, comme on en parlait tout à l'heure. La Porte Saint-Jean, ça, c'est les fortifications qui vont forcer ça, là, qui vont faire une coupure là, entre le bourg et le faubourg. La Porte Saint-Jean, bien, forcément, c'est le passage qui va permettre de rentrer en ville. Puis c'est là que ça va jouer un rôle important. Ça va permettre de laisser passer le chemin de M. Jean Bourdon, la rue Saint, qui va devenir la rue Saint-Jean. Et c'est ce qui va permettre aux gens, aux habitants du faubourg Saint-Jean de ne pas vivre en vase clos. Ils doivent s'alimenter, ils doivent vivre leur vie religieuse. Alors, ils doivent régulièrement aller à l'intérieur du bourg pour aller à l'église, pour aller au marché. Alors, vraiment, la Porte Saint-Jean va devenir un point très, très important à ce niveau-là.
Mais on fermait la porte, si je me rappelle bien. Ouais,
absolument. Quand il y a une garnison, que ce soit française ou britannique, jusqu'à 1871, c'est une ville fortifiée. Le soir, on ferme les portes et c'est fini. Ça va aller au matin avant qu'on puisse entrer. Si quelqu'un qui reste à l'intérieur des fortifications n'a pas le temps de se rendre chez lui, ben, il va être obligé de se trouver quelqu'un dans le faubourg Saint-Jean pour l'héberger pour la nuit et vice-versa. Si quelqu'un du faubourg était parti au presbytère par affaire puis qui sort et la porte est fermée, ben, il faut que tu trouves un endroit pour dormir jusqu'au lendemain. Alors, effectivement, là, c'est une contrainte. C'est pour ça d'ailleurs que quand la garnison a quitté Québec en 1871, l'administration municipale a tout fait ce qui était en œuvre, là, tout ce qui était possible de faire pour démolir tout ce qui était fortification, jusqu'à temps qu'on les arrête et qu'on dise « Hey, vous êtes en train peut-être de commettre une erreur ». Mais bref, faut les comprendre, là, c'est pas évident. Là.
Donc cette porte-là, autant fermait un peu l'accès la nuit, protégeait donc les gens du bourg, mais aussi coupait d'une certaine façon, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais de l'accès aux services, puisque dans le faubourg, il y avait beaucoup moins de services que dans le bourg. Donc, c'est vraiment la Porte Saint-Jean, ou plutôt les fortifications.
Absolument. Ça peut avoir un impact. Là. La nuit, il arriverait un malheur. Quelqu'un serait malade, un accouchement qui tourne mal, puis qu'on n'a pas de médecin dans le faubourg. Bien, il faut que tu attendes au matin, avec toutes les conséquences que ça peut encourir.
Oui.
Puis, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des témoignages de gens qui se sont retrouvés enfermés à l'extérieur de la ville pendant la nuit ou qui se sont retrouvés enfermés dans la ville pendant la nuit?
Il y en a peut-être. Moi, personnellement, j'en connais pas, mais il y en a peut-être, sûrement dans les papiers militaires, parce que probablement qu'il y a eu des représentations de faits. Alors, dans les archives militaires, peut-être qu'on pourrait trouver des traces de ça. Moi, personnellement, j'en connais pas, mais ça ne m'étonnerait pas du tout que ça existe, là.
Donc, à quoi ressemblait la vie dans le faubourg Saint-Jean à la fin du 18e siècle et au 19e siècle?
Fin 18e, au tournant du 19e siècle, là, c'est un petit faubourg d'artisans. Il ne se passe pas encore grand-chose. Là. C'est pas le, La rue Saint-Jean, c'est encore une rue commerciale. Puis c'est vraiment un lieu d'habitation, tout simplement. Les gens vivent dans leur maison et vont travailler, que ce soit dans des chantiers de construction navale, que ce soit dans le Faubourg Saint-Roch à différentes activités. Et les gens font simplement habiter, là. Donc, c'est des artisans. C'est des petites maisons de bois en pièce sur pièce, des petites toitures à deux versants, parfois des lucarnes. Alors, c'est pas des gens très, très riches. C'est pas la pauvreté non plus, mais c'est conditions très, très, très... c'est une basse condition.
Puis, est-ce qu'on compte déjà quelques commerces? Parce que là, on parle d'artisans qui s'installent dans le quartier, mais est-ce que, bon, ils ouvrent aussi, je sais pas...
C'est sûr qu'on va retrouver dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, comme on va retrouver dans n'importe quel petit embryon, entre guillemets, urbain, là, puis même dans des villages, on va retrouver ces différents corps de métiers. Il va y avoir des celliers, il va y avoir des épiciers. Puis là, on pense pas aux épiceries d'aujourd'hui. Là. Il va y avoir des bouchers, des tanneurs, cordonniers, etc., etc. Mais faut pas imaginer la rue Saint-Jean commerçante qu'on a aujourd'hui. Ça va arriver un petit peu plus tard, là, après le premier grand incendie, entre autres. Là. Mais effectivement, il y a des artisans qui ont leur boutique à même leur maison. Alors, encore une fois, il ne faut pas imaginer une boutique avec une grande vitrine. Là. C'est vraiment dans sa maison. Souvent, c'est un arrière-boutique. Là. Dans la cour de la maison, il y a un petit atelier. Et puis les gens vont faire leur commande, que ce soit un cordonnier, que ce soit différentes choses du genre. Là. Mais on parle vraiment d'artisans. Là. Puis les autres, bien, c'est des travailleurs, des journaliers qui travaillent à différents endroits là, pour gagner leur vie. Là.
Donc, pas des gens, comme vous l'avez dit, très, très fortunés, mais j'imagine
pas nécessairement
dans la grande, grande misère. Sauf que je crois qu'à mesure que le faubourg va se remplir, les conditions d'hygiène du faubourg vont se détériorer au 19e siècle, surtout dans la deuxième moitié. Donc, on assiste à une plus grande misère, à un mélange, à une mixité culturelle, à de la pauvreté dans le faubourg, il y a la propagation d'épidémies. Donc, on voit donc arriver des communautés religieuses et des organisation de bienfaisance. Donc, par communauté religieuse, on va voir s'installer les Sœurs de la Charité ou les Frères des écoles chrétiennes. Et par organisation de bienfaisance, donc deuxième moitié du 19e siècle et début 20e siècle, la Société Saint-Vincent-de-Paul et le YMCA. Donc, autrement ce quartier où s'installent des artisans, comment ça évolue finalement pour qu'on voit là, s'établir ces organisations-là qui viennent répondre à un besoin?
Bien, d'abord, comme je vous le disais, c'était des gens de conditions modestes. C'était pas un grand... Le faubourg, là, c'était pas une énorme population. Mais au 19e siècle, je vous dirais, à partir du début du 19e siècle, puis ça va évoluer, là, la population, je dirais, va exploser. Ça va doubler là, aux 10 ans. Par exemple, en 1805, on dit qu'il y a 1676 habitants. En 1815, 10 ans plus tard, on a doublé. On a rendu à 3157. En 1831, 15 ans plus tard, on est rendu à 8000. Alors, vous voyez, ça augmente beaucoup. Qu'est-ce que ça va faire, cette augmentation-là? Bien, on n'a pas de système d'égout, par exemple. C'est des égouts à ciel ouvert, c'est des puits. Donc, les conditions hygiéniques vont beaucoup, beaucoup se détériorer. Les gens aussi, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir s'installer. Il n'y a pas nécessairement du travail, là... C'est pas la prospérité économique, sans que ça soit la crise non plus, là. Alors, il va s'installer un petit peu plus de misère, conditions hygiéniques moins bonnes. Vont apparaître, 1832, des épidémies de choléra, 1832, 34. Et là, pour couronner le tout, 1845, c'est le grand incendie qui va complètement détruire le quartier. Alors, les gens vivent conditions modestes, mais à un moment donné, là, c'est la misère qui s'installe, puis les malheurs qui se succèdent. Alors, les communautés religieuses qui ont comme mission d'aider leurs prochains de différentes façons, que ce soit en éducation, dans les soins hospitaliers ou pour aider la pauvreté, bien, eux, ils vont venir vers ces gens-là pour venir s'installer puis les aider puis pouvoir développer leur œuvre puis au service de ces gens-là qui sont dans la misère. Alors, par exemple, les premières communautés religieuses qui vont arriver, ça va être les Frères des écoles chrétiennes, 1843, qui vont ouvrir une petite école sur la rue des Glacis, dans le secteur des Glacis. Là. C'était pour eux et pour l'Église, c'était très important d'éduquer les gens, qu'il y ait un minimum d'éducation, sans en faire entre guillemets, des universitaires, là, fallait qu'il y ait un minimum d'éducation, d'instruction. Et donc, les frères des écoles chrétiennes, on va les faire venir, ils vont ouvrir une première école. Ensuite, 1849, c'est les Sœurs de la Charité de Montréal qui vont venir s'installer à Québec, qui vont créer les Sœurs de la Charité de Québec avec Sœur Mallet, et qui vont ouvrir un orphelinat. Parce que il y a beaucoup, c'est un problème, ça aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui perdent leurs parents et qui se retrouvent devant rien, là. Alors, on va ouvrir un orphelinat. 1850, c'est les Sœurs du Bon Pasteur qui vont venir s'installer dans le faubourg. Elles vont s'occuper des filles perdues. Les filles perdues, ben, c'était une façon à l'époque de décrire les mères célibataires. Ils vont s'occuper aussi de femmes ex-détenues, des femmes qui sortent de prison. Souvent, ils sont en prison pourquoi? Souvent, c'est de la prostitution. Alors, les Sœurs du Bon Pasteur vont s'occuper de ces femmes, entre guillemets, ces femmes perdues-là, comme on le disait à l'époque. Ensuite, 1861, c'est les Pères de Saint-Vincent de Paul qui vont venir s'installer dans le faubourg aussi pour établir la Société Saint-Vincent de Paul, qui va venir en aide aux pauvres, qui vont leur aider lorsqu'ils sont dans le besoin, à avoir de la nourriture, à avoir les biens de base essentiels. Et eux vont pousser un petit peu plus loin. En 1884, ils vont créer l'œuvre du patronage qu'on appelle. Plusieurs auditeurs plus âgés vont se rappeler des fameux patros qui existent toujours, mais qui sont peut-être moins populaires que ça l'était dans les années 40, 50, 60. Là. Alors, on veut offrir une plus belle qualité de vie aux gens, et notamment aux jeunes. Donc, le patro, on offre du loisir aux jeunes de ces conditions modestes, de ces familles-là. Puis plus tard, on va arriver d'autres institutions qui ne sont pas nécessairement religieuses, mais j'appellerais ça, entre guillemets, para-religieux. Là. Par exemple, l'hôpital Jeffrey qui va ouvrir en 1865, qui va être destiné surtout aux anglophones ou aux anglicans, mais néanmoins, on voit déjà un hôpital là, qui se crée dans ce secteur-là. Puis plus tard, 1879, ça va être le YMCA, qui va offrir du sport à la jeunesse. Mais là, on ne parle plus des enfants, des adolescents, là, c'est plus des jeunes adultes, les hommes, le YMCA. Et d'ailleurs, un fait qui est amusant, c'est la première piscine intérieure qu'on va avoir à Québec, ça sera au Y. Et ça crée un petit scandale parce qu'on dit que les hommes se baignaient nus. Et au 19e siècle, là, c'était scandaleux, là, tu sais. Alors, vous voyez, toutes ces institutions-là vont aller s'établir dans le quartier parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'organismes pour les aider. Pour les aider pour manger, pour se soigner, pour s'instruire. On n'a pas les mêmes moyens que les gens, par exemple, à l'intérieur du bourg, de la ville fortifiée, vont avoir. Alors, on vient suppléer à ce manque-là. Là.
Et donc, peut-être rapidement pour conclure ce deuxième bloc, un événement qui est quand même assez important dans l'histoire du quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est les incendies. Il va en avoir à plusieurs reprises, notamment en 1845, on dit que 1630 maisons du faubourg vont être détruites par le feu. Puis, bon, de nouveaux incendies en 1861, 1862, 1876 et 1881. Quelle a été l'importance rapidement du feu et des incendies sur l'histoire du quartier et sur son redéploiement?
D'abord, au 18e, 19e siècle, c'est un phénomène urbain, les grandes conflagrations. Il n'y a pas juste Québec, là, toutes les villes connaissent des grands incendies. Mais le faubourg Saint-Jean, vraiment, lui, il est marqué par le destin. Les incendies vont se suivre les uns après les autres. Ça va être catastrophique. Tu parlais de 1845, Alex. Le 28 juin, un incendie qui va s'allumer, accident évidemment, dans un hangar qui était situé à l'extérieur de la porte Saint-Jean, sur la rue d'Aiguillon. Et rapidement, avec un vent de l'est, là, ça va se répandre. Et au total, c'est 1500 maisons, 9000 sans-abri. C'est incroyable quand on y pense. C'est plus facile de donner ce qui a été épargné que ce qui a été détruit. Dans tout le faubourg, il y avait pas loin de 2000 maisons. Il y en a 24. Qui ne sont pas touchés. C'est incroyable. Quel impact ça va avoir, ça? Ça va avoir un impact sur le développement du quartier. Le quartier, il est rasé. C'est pas compliqué, il n'y a à peu près plus rien. Donc, on va en profiter d'abord pour redresser des rues, élargir certaines rues. Tant qu'à repartir, bon, on repart comme il faut. Ensuite, on va demander aux gens de ne plus construire de maisons en bois. Ils vont pouvoir s'en construire une, mais temporairement. Le 1er septembre 1847, il fallait qu'elle soit démolie pour aller construire une maison de pierre. Parce que là, il fallait que les gens se construisent une maison parce que l'automne va arriver bientôt, là, puis on est fin juin. Alors, on va leur donner la permission, mais rapidement, c'est interdit. Les maisons devront être en pierre ou en briques avec des toits en tôle pour éviter les incendies. Donc, l'architecture, le coup d'œil qu'on a du quartier va complètement changer. Les petites maisons de faubourg en pièce sur pièce, puis... avec un petit toit à deux versants, là, on ne trouvera plus ça. Maintenant, ça va être des maisons de briques, de pierre, de briques, souvent deux, trois étages, parce que là, la population augmente, alors tout aussi bien d'en profiter. Ou des petites maisons de deux étages, mais avec une mansarde qui permet d'occuper beaucoup plus facilement le deuxième étage. Ensuite, la rue Saint-Jean, où on retrouvait quelques commerces. Là, il va s'installer beaucoup de commerces. Là, ça va devenir vraiment une rue commerçante. Et dans tous les sens du terme, tant qu'à reconstruire une maison, tant qu'à se reconstruire et installer son commerce, mais là, on va se mettre une vitrine. On va avoir le commerce au rez-de-chaussée, puis la famille de l'artisan ou du commerçant va habiter à l'étage. Alors, les grands incendies, là, ce que ça va provoquer, c'est vraiment un changement architectural. Il va y avoir l'apparition d'églises aussi, ça, on va en parler un petit peu plus tard, j'imagine. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là que ça va se passer. Puis il va avoir, c'est ça qui est incroyable dans Saint-Jean-Baptiste, il va y avoir d'autres incendies tout aussi importants. Tu les déclinais tout à l'heure, là, 1861, 50 maisons de brûlées. 1862, 95 maisons, dont 10 maisons qui venaient d'être reconstruites à la suite de l'incendie de l'année précédente. 1876, on parle de 411 maisons, 3000 personnes sur le pavé. Et 1881, ça, c'est le dernier grand incendie. Enfin, ça va finir par finir. 800 maisons, 1500 familles, dont l'église Saint-Jean-Baptiste qu'on avait construit à la fin des années 40. Alors, c'est vraiment, là, on fait table rase malgré nous, là, parce que c'est pas ça qu'on voulait. Alors, le quartier va être métamorphosé physiquement, là.
Bien, c'est super intéressant et on pourra en parler encore longtemps de ces incendies, mais c'est déjà le temps d'aller en pause publicitaire. Donc, retrouvez-nous dans quelques instants sur les ondes de Schiste 94.3.
Vous écoutez Schiste 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Schiste pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Schiste 94.3.
À l'avant-garde!
Chérie J'arrive débarque dans vos oreilles tous les jours de 16h à 17h30 pour vous faire découvrir la scène culturelle et artistique de Québec.
Collabos, chroniques, entrevues, tout ce qu'il te faut pour être à l'affût des nouveautés musicales, théâtrales, littéraires, dansées, exposées. Vous voyez ce qu'on veut dire, là? Chérie J'arrive par Gabriel Morissette
et Philippe Duchesne en semaine dès 16h à Chérie 94.3.
Par le cadre du 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Schiste 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Away le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Schiste 94.3.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'histoire du Faubourg Saint-Jean en compagnie de l'historien Jean-François Caron. Avant la pause, nous avons discuté un peu de ce quoi avait l'air la vie dans le Faubourg Saint-Jean au 18e et 19e siècle. Continuons donc cette incursion au cœur de l'histoire du Faubourg. Donc, au 19e siècle, le Faubourg Saint-Jean est lieu de mixité culturelle et sociale, hein, fruit de l'immigration. Donc, aux ouvriers et artisans d'origine française se mélangent ceux issus de l'immigration irlandaise, anglaise et écossaise. Comment cette mixité façonne-t-elle le développement du Faubourg Saint-Jean?
Mais d'abord, pourquoi qu'il arrive tout à coup des immigrants même dans le faubourg? C'est un phénomène qu'on retrouve à Québec. Il y a beaucoup d'immigration, on le sait. On retrouve des Écossais, des Anglais, effectivement, qu'on va retrouver plus, par exemple, dans la ville. Dans le faubourg, on va retrouver beaucoup d'Irlandais, principalement catholiques, et des Anglicans aussi. Ces gens-là, souvent, habitaient dans le quartier du Port. Quand on parle d'Irlandais, on pense toujours au Cap Blanc. C'est des gens qui travaillaient beaucoup au Port de Québec, des débardeurs, dans la construction navale. Donc, on retrouve beaucoup ces gens-là au Cap Blanc. Quand va arriver la première grande épidémie de choléra, on a souvent entendu parler, les gens fortunés qui restaient en ville vont quitter la ville, la population, puis ils vont aller s'établir plus à l'ouest, là, à Sillery, à Sainte-Foy, ils vont se construire des villas, puis ils vont aller passer leur été là, puis ils vont essayer de fuir ce qui se passe en ville, là, les épidémies, les miasmes, comme on disait à l'époque, on pensait que ça se répandait par des nuages, là. Alors on veut fuir ce milieu-là. Bien, les artisans sont pas pires que les autres. Ça arrive beaucoup par le port, les épidémies, et beaucoup d'Irlandais qui étaient dans le secteur du Cap-Blanc vont monter à la Haute-Ville et vont aller s'installer, non pas dans le bourg, évidemment, ils vont s'installer dans le faubourg Saint-Jean. Donc, comme tu le disais précédemment, il va y avoir une mixité linguistique qui va s'installer dans le faubourg avec l'apparition, l'arrivée de ces gens-là. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est qu'à l'intérieur du faubourg, évidemment, ces nouveaux arrivants-là vont tenter de se regrouper. Et à l'intérieur du faubourg va naître une espèce de petit quartier irlandais qu'on va appeler, aujourd'hui on en parle, à l'époque on ne l'appelait pas comme ça, là, mais aujourd'hui on va parler de l'îlot O'Connell. L'îlot O'Connell, c'est situé où on retrouve aujourd'hui le centre des congrès. Il y avait, par exemple, la rue Saint-Patrick, la rue O'Connell, l'avenue Scott, la rue Scott. Alors, ces gens-là vont se regrouper à cet endroit-là, puis ils vont faire les mêmes activités que les Canadiens français, sauf qu'ils vont se regrouper entre eux, puis ça va créer un petit quartier anglophone. Et il va apparaître, à cause de leur présence, puis c'est tout à fait normal, différentes institutions anglophones qui vont marquer le quartier. Par exemple, à partir de la fin, début 19, fin au 18e siècle, il va apparaître le cimetière anglican, le cimetière Sainte-Mathieu sur la rue Saint-Jean, et il y avait la petite maison du gardien qui va devenir une chapelle. Et en 1848, après le grand incendie, on va construire l'église Sainte-Mathieu qu'on a aujourd'hui, qui va évoluer là, architecturalement et structurellement, mais cette petite église-là va apparaître. Il va apparaître aussi un Sunday School. Pour ceux qui prennent l'autobus, le 807, là, je suis sûr qu'ils connaissent, sur l'Aiguillon, au coin de Saint-Augustin, de mémoire, il y a une espèce de maison, là, c'est des logements, mais on dirait d'une église. Mais c'était effectivement un genre d'église. C'était un Sunday School qui était associé à l'église Sainte-Mathieu de la rue Saint-Jean. Ensuite, il va apparaître, on avait parlé tout à l'heure des frères des écoles chrétiennes qui avaient ouvert une école sur le glacis, qu'on appelait l'école de la rue des Glacis, l'école du glacis. Alors, ça va devenir une école anglophone. Les Christian Brothers vont en faire une école anglophone. Il y avait trois classes francophones qui, elles, vont être déménagées au sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste, et ça va devenir la Fortification School, l'école des glacis. Et donc, c'est très intéressant, ça, de voir ça. Là, 1849, toujours après, vous voyez, on est toujours après le grand incendie. Là. Ensuite, va apparaître, 1865, l'hôpital Jeffrey Hale, on en a parlé plus tôt, qui s'adresse, qui est destiné aux anglophones. S'il n'y avait pas eu d'anglophones dans le quartier, il n'y aurait pas eu un hôpital anglophone. Le YMCA, c'est la même chose. C'est une institution britannique. C'est anglophone. Et évidemment, ça va être fréquenté à un moment donné majoritairement par des francophones, mais c'est d'origine anglophone. Et tout ça, bien, ça émane, le caractère anglophone de Québec, c'est sûr, mais du faubourg Saint-Jean-Baptiste également et de son îlot O'Connell, qui va complètement disparaître. On va complètement raser ce quartier-là à la fin des années 60, début des années 70, quand on va tout réaménager la colline parlementaire et qu'on va construire le centre des congrès. Alors, quand on va au Salon du Livre, au centre des congrès, ben, on est vraiment dans le quartier, entre guillemets, le quartier irlandais, l'ancien quartier irlandais de Québec.
Et si on se rend maintenant du côté de la rue Saint-Jean, on en a parlé un petit peu tout à l'heure que la rue Saint-Jean du 18e siècle, c'est pas bon l'artère commerçante qu'on connaît aujourd'hui, puis que c'est vraiment plus à partir du moment où ce que la ville va se redéployer, en fait le faubourg va se redéployer après les incendies, qu'on va commencer à avoir des vitrines marchandes. Mais je serais curieux de vous entendre davantage sur le sujet. Quel a été le rôle de la rue Saint-Jean dans le développement du quartier? Les sources en parlent comme d'une véritable colonne vertébrale du faubourg. Quel rôle prend la rue Saint-Jean dans le développement du quartier?
La rue Saint-Jean va devenir excessivement importante parce que, tu l'as dit, Alex, ça va être la colonne vertébrale du quartier autour duquel, de laquelle colonne vertébrale va s'articuler tout le développement. D'abord, on va voir la rue Saint-Jean et toutes les petites rues vont partir de là, en perpendiculaire ou en parallèle. Là, ça va tout se développer autour de la rue Saint-Jean et pas autour d'une autre rue, pas autour de la rue d'Aiguillon, autour de la rue Saint-Jean. Pourquoi cette rue-là? Parce qu'on l'a vu en début d'émission, l'ancien chemin Saint-Jean, c'était le chemin qui va relier Québec au fief de M. Bourdon. Cependant, ça va devenir aussi un segment, le départ du chemin du Roi. Alors, ça va être vraiment un chemin de transit entre Québec et la banlieue, mais entre Québec aussi et l'extérieur, Trois-Rivières, Montréal. Donc, ça va être vraiment un axe de transit et beaucoup de voyageurs qui vont se rendre à Montréal, vers Montréal ou vice-versa, bien, on va vouloir leur offrir des services lorsqu'ils arrivent à Québec ou qu'ils partent. Ensuite, il y a on a vu que le quartier se développe énormément. Donc, ça prend des commerces de plus en plus, des artisans. Alors, on va aller s'installer sur la rue qui est passante. On n'ira pas installer son commerce, idéalement, là, la troisième rue sur le bord de la falaise, là, où il n'y a pas un chat qui passe. Donc, vraiment, la rue se développe et va prendre beaucoup, beaucoup d'importance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la suite de l'incendie de 1845, ça va exploser. Et tant qu'à reconstruire, bon, on construit avec une vitrine. On va se mettre une affiche avec sa raison sociale. Donc, la rue se développe, va vraiment prendre des couleurs commerciales, commerçantes, là, avec des vitrines, des affiches, etc. Et éventuellement, il y a des banques, des institutions financières qui vont s'installer là. Eux, ils vont aller où il y a de l'argent où les gens ont besoin d'argent. Alors, ils vont aller s'installer là. Et là, c'est comme une roue qui tourne, là. Alors, la Caisse d'économie, différentes banques, grandes banques qui vont s'installer là. Ensuite, le tramway. Le tramway, il ne passera pas ailleurs que là. C'est là qu'il faut qu'il passe. C'est là que les activités se passent, les activités commerciales, mais aussi toutes les activités sociales, la vie, l'église et sur la rue. Alors, c'est vraiment... Tout se passe sur la rue Saint-Jean et ça va devenir le poumon économique du faubourg, mais également de la ville. En basse ville, c'était la rue Saint-Joseph et en haute ville, c'était sur la rue Saint-Jean que ça se passait, là, les activités. Et la prospérité économique. Là. La rue Saint-Jean, intramuros et extramuros, mais la rue Saint-Jean dans le faubourg, là, ça devient excessivement important.
Donc, on a discuté tout à l'heure comment ça se passait là, au 18e siècle, au début du 19e siècle, où bon, ben, c'était vraiment les murs de fortification, la porte Saint-Jean qui différenciait le bourg où il y avait une multitude de services et le faubourg. Et donc, à un certain moment où il y avait assez de population pour demander la construction d'un lieu de culte, donc on parle 1842, les habitants du faubourg vont se regrouper pour demander la construction d'un lieu de culte à l'extérieur des murs de la ville, donc à l'extérieur des murs de fortification. On va ériger une première église en 1849, puisqu'en 1845, on le sait, il y a eu un incendie qui a brûlé plusieurs maisons et qui a libéré de l'espace. Donc, on a pu construire cette première église-là. Mais bon, on le sait encore, il y a plusieurs incendies qui vont arriver par après, dont l'incendie de 1881. Et donc, l'église de 1849 est ravagée une première fois. Qu'est-ce qui va arriver après ça? Est-ce que les habitants vont finalement avoir leur église?
Oui, d'abord, on a l'église qui est la première église qui est conçue par Charles Baillarger, le fameux ingénieur et architecte de la ville de Québec. Et c'est pas évident. Il y a eu l'incendie de 1845, comme tu disais, qui va libérer de l'espace, sauf qu'il libère de l'espace dans un talus. L'église, puis encore aujourd'hui, quand on le regarde, là, j'imagine que c'est une prouesse architecturale et d'ingénierie, là, construire une église dans une pente comme ça. Alors, on va avoir notre église. On commence en 1847. Elle est ouverte au culte en 1849. et les gens vont pratiquer leur culte à cet endroit-là. Mais ils ont enfin leur église, ils sont un peu obligés, même si c'était plus très loin, là, il y a, à un moment donné, il y a un sentiment d'appartenance. C'est toujours obligé d'aller à l'église à l'autre bout de la ville, là, dans une paroisse auquel tu ne te sens pas nécessairement associé. C'est plus associé à la bourgeoisie, là, tu sais, la cathédrale. Alors, on va voir notre église, on en est très content, sauf que c'est une desserte. C'est une desserte de Notre-Dame de Québec. Il n'y a pas de curé, c'est un prêtre qui vient dire la messe. En 1860, on va prendre du galon. Ça va devenir une succursale. Une succursale, ça veut dire qu'on peut enfin y célébrer des baptêmes, mariages et sépultures. Alors, ce n'est pas juste aller à la messe du dimanche. Quand tu vas te marier chez vous, dans ton quartier. Et finalement, beaucoup plus tard, là, en 1886, on va ériger canoniquement la paroisse Saint-Jean-Baptiste, comme je vous le disais. On en parlait plutôt dans l'émission Saint-Jean-Baptiste, mais ça aurait pu être Saint-Jean l'évangéliste. Mais pourquoi Saint-Jean-Baptiste? C'est que l'Église, le parvis d'Église va devenir un lieu de rencontre pour la société Saint-Jean-Baptiste qui va se rassembler là lors de grands événements ou lors d'une parade, ça va être le point de ralliement ou le point d'arrivée de la parade. Alors, ça a sûrement joué un... Dans la balance, là, ça a pesé sûrement pour qu'on appelle ça Saint-Jean-Baptiste plutôt qu'un autre Saint-Jean. Là. Alors voilà, donc on a notre paroisse et arrive l'incendie de 1881 et la belle église de Charles Baillargé va être complètement rasée. Alors on va construire aussitôt une nouvelle église et qui est vraiment un bijou architectural. C'est l'église qu'on connaît aujourd'hui, qui a été dessinée par Joseph Ferdinand Piché. Que plusieurs appellent Pichy, sauf que lui, à l'époque, il se faisait appeler Piché. Donc, appelons-le Piché. Puis ses contemporains l'appelaient Piché. Bref, il va construire une magnifique église qui est l'église qui est toujours là aujourd'hui.
Et c'est ça, il y a aussi une renaissance au 19e siècle du sentiment national canadien-français avec l'organisation Absolument. De fêtes pour Saint-Jean-Baptiste. Et donc, ça a pu jouer un rôle. Comme vous le mentionnez, il y a vraiment l'Église va jouer un rôle clé dans la vie culturelle, la vie sociale, l'identité des Canadiens français de la ville,
Absolument.
De ce quartier-là.
Ça va devenir un peu le centre nerveux de l'Église, là, le centre nerveux du quartier. D'abord, Piché avait choisi d'ériger l'Église dans le style Second Empire, qui était très à la mode et en Europe. Et en France, mais aussi à Québec, là, avec la construction du Parlement, par exemple, qui convient juste, on est en train de la construire, là, et ça vient de se terminer, et c'est Second Empire, et c'est un style français, et on dit que Piché a voulu affirmer le caractère francophone de la ville de Québec en choisissant ce style-là. Et c'est ce qui va attirer aussi, comme je le disais, là, ça va donner plus de sens à toutes les activités de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et à l'époque, bon, l'Église, on va à la messe le dimanche, mais toute l'activité religieuse implique tout le monde dans la paroisse. C'est excessivement important et tout se passe à l'Église. Alors, pensez aux messes du dimanche, mais à toutes les grandes fêtes, Noël, Pâques, l'Assomption, à l'époque, il y en avait toute une série, là, des mariages, des baptêmes, des sépultures. Alors, les gens vont beaucoup à l'Église, donc ça devient un lieu de rassemblement. Il y a beaucoup d'organisations religieuses aussi qui vont s'installer là. Pensons aux Enfants de Marie, Société Saint-Vincent-de-Paul, les Zouaves, plus tard les Scouts. Tout ça sont installés à l'église. Donc, à l'église Saint-Jean-Baptiste, comme dans plusieurs églises, mais à l'église Saint-Jean-Baptiste en particulier, là, ça devait vraiment bourdonner. Là. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. Puis ça va devenir le centre nerveux de toutes les activités sociales, culturelles, à la limite politiques du quartier. Tout va se passer là. Et les gens vont se rencontrer là. Ça va devenir un lieu de rencontre. Puis encore aujourd'hui, là, on passe sur la rue Saint-Jean, il y a toujours des gens sur le parvis de l'église qui jasent. Ils pourraient aller ailleurs, là, mais il y en a toujours qui se rassemblent là. Lors du festival, par exemple, de cinéma, on va installer un poste à cet endroit-là où on peut visionner des petits films. C'est vraiment, ça a toujours été, et c'est encore aujourd'hui, un lieu de rencontre pour le quartier.
En 1991, l'église va acquérir le statut de monument historique. On comprend, quand on se promène dans le quartier, on va se le dire, elle est impressionnante, cette église. Mais depuis 2015, donc moment de sa fermeture, ou moment de sa dernière messe, l'avenir de l'église reste incertain. On parle actuellement d'une possible reconversion. Donc rapidement, là, quels sont les développements sur le dossier de l'église Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui?
Effectivement, on pensait que tout était beau en 91 quand l'église a été désignée, mais on a vite déchanté quand on a fermé l'église pour des questions de coûts, mais aussi des questions de fréquentation. On manquait de fidèles, on manquait de prêtres. Et depuis 2015, donc, on cherche une vocation. Puis dans le cas de l'église Saint-Jean-Baptiste, je dirais plus qu'ailleurs, c'est probablement plus compliqué. D'abord, en raison de son classement, en raison de sa beauté. Elle ne serait pas classée, là. Ça serait un péché de détruire ça, là. Alors, ça limite beaucoup les options. On ne pourrait pas, par exemple, en faire une école de cirque comme on l'a fait dans Limoilou, sans tout venir altérer l'intérieur, qui est carrément un chef-d'œuvre architectural, une ornementation absolument incroyable. On ne pourrait pas subdiviser ça pour en faire des condos, par exemple. Donc, il faut vraiment y réfléchir, là. Puis, c'est long, mais je pense que ça va finir par aboutir. D'autant plus qu'il y a quoi? Il y a un mois peut-être, on a entendu dire que dans le comité de réflexion qui est dirigé par John Porter, il y avait l'Institut canadien qui venait de s'impliquer à l'intérieur de ça. Et l'Institut canadien, on sait, bon, qui ont certains succès dans ce secteur-là, entre autres avec ce qu'ils ont fait avec l'ancienne église de Wesleyan, là, qui est devenue la maison de la littérature. Alors, c'est une belle réussite. Alors, c'est encourageant de voir eux sont entrés là-dedans. Puis John Porter disait aussi de donner certaines orientations en disant que les milieux culturels, associatifs, touristiques, scolaires seraient des partenaires potentiels auxquels il faudrait penser. Il disait aussi qu'il faudrait que l'usage soit multiple, que ça ne soit pas une fonction puis c'est fini. Il faudrait que ça soit multiple et que ça profite. Et ça, c'est fantastique, surtout dans l'histoire du quartier, à la communauté qui habite le quartier, aux différentes communautés qui habitent le quartier. C'est pas fini. L'avenir a déjà été plus sombre, je pense, qu'il l'est actuellement. On va se croiser les doigts, puis là, ça continue à réfléchir, puis je pense qu'il y a des nouveaux joueurs qui peuvent faire une grosse différence dans cette réflexion-là.
Rappelons aussi que, parlant de l'Église, il y a une belle publication qui est parue au Septentrion là, sur l'inoubliable Saint-Jean-Baptiste, magnifique photo de l'Église Saint-Jean-Baptiste. Donc, vraiment des photos à avoir, puis je pense que c'est une église à visiter, à découvrir et à redécouvrir encore. Donc, on est déjà rendu à la dernière portion de notre émission, la partie conclusive de l'émission sur le Faubourg Saint-Jean. Quelques mots sur le 20e siècle, puisqu'on n'a pas vraiment abordé au cours de l'émission. Donc, on a parlé là, d'un vent de modernisation là, qui va souffler sur le Faubourg Saint-Jean, qui va amener le paysage et le tissu urbain à se modifier. Donc, comment ce vent de modernisation-là affecte-t-il le faubourg?
D'abord, le faubourg, c'est fantastique, on en a parlé, là, mais on ne peut pas le mettre sous une cloche de verre, là. C'est sûr que le vent de la modernité va souffler sur le faubourg, puis il va être affecté, c'est sûr et certain. Cependant, il faut éviter de répéter des centres de congrès où on a tout démoli. Mais j'ai confiance parce que depuis longtemps, les gens du faubourg Saint-Jean-Baptiste sont éveillés à ça. Ils sont très vigilants, résistent souvent, pas résister pour résister. Là. N'oubliez pas que dans le faubourg Saint-Jean, il y a un petit passage qu'on appelle le passage de la résistance. Bien, c'est à cause de ça, justement, parce que les gens sont à l'affût. Rappelez-vous l'épisode de Lilou Irving à côté de la caserne de pompiers où on voulait construire un édifice de 9 ou 10 étages. Les gens n'étaient pas contre qu'on construise à cet endroit-là, au contraire. Mais on disait, minute, là, on ne construit pas n'importe quoi. Et finalement, on a construit un édifice de 5 étages, dont le 5e étage qui est un peu en retrait, qui ne paraît pas de la rue. On a fait quelque chose de beaucoup mieux que ce qui était présenté. Et ça, pourquoi? À cause de la vigilance des gens du quartier. Alors moi, j'ai confiance que le quartier va évoluer, c'est sûr et certain, mais avec les gens du Faubourg Saint-Jean, probablement les plus... à l'affût, les plus à la guet dans la région de Québec. Je pense que c'est dans ce quartier-là que les gens sont le plus mobilisés, selon moi. J'ai confiance que l'avenir n'est pas si noir que ça, là, pour le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, au contraire.
Et on parle d'avenir. À votre avis, quels sont les principaux défis auxquels va faire face ce quartier-là dans les années à venir, outre effectivement bon, les enjeux de densification que vous venez d'évoquer?
Moi, je pense que des enjeux. J'habite pas le quartier, c'est difficile à juger, sauf que c'est un quartier où il y a une belle vie de quartier. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens seuls, il y a beaucoup de jeunes couples. Mais j'ai traversé ce quartier-là à pied soir et matin pendant des années pour me rendre à mon travail. Et j'avais l'impression de traverser certains quartiers de Paris où le matin, vous allez dire, on retrouve la même chose dans le quartier Montcalm. Des parents qui vont emmener les enfants, qui vont reconduire les enfants à l'école, qui vont aller pousser chercher quelque chose. Mais dans Saint-Jean-Baptiste, les rues sont plus étroites. Il n'y a pas de terrain devant les maisons. C'est beaucoup plus compact. Donc, on est beaucoup plus près les uns des autres. Puis je pense que c'est ça qu'il faut conserver. Il y a vraiment une vie de quartier. On passe sur la rue Saint-Jean actuellement, puis moi, ça me frappe à chaque fois que je passe. Il y a un petit café près de l'église, le café, le Cantouque, où il y a toujours, au moins, minimum, beau temps, mauvais temps, 5-6 personnes qui sont sur le trottoir. C'est peut-être pire maintenant qu'aux pandémies, là. Ils sont sur le trottoir à prendre un café et à jaser. Je trouve ça fantastique. Il y a vraiment une vie de quartier. Des gens qui sortent d'épicerie avec un enfant par la main, puis ils se dépêchent à retourner à la maison après l'école. C'est ça, je pense, qu'il faut conserver, cette vie de quartier-là, pour pas que ça devienne un musée en plein air, comme on en connaît un peu ailleurs à Québec. Là. C'est la vie de quartier, puis ça doit être conservé. Voilà.
Alors, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Merci infiniment à notre invité, M. Jean-François Caron. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir à l'émission. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible dans quelques minutes sur le site de Chiz et dès demain sur toutes nos plateformes en balado-diffusion, Spotify, Google Podcasts, etc. Restez également informés de nos activités organisées dans le cadre du Printemps Saint-Jean-Baptiste. Nous avons une programmation pour tous les âges et pour tous les goûts. Rendez-vous sur le site de la Société historique de Québec pour la consulter. Pour terminer, quittons-nous sur une dernière pièce musicale, « Heureux d'un printemps », interprétée par Paul Piché en 1977, une chanson qui s'intègre bien dans le printemps Saint-Jean-Baptiste. Bonne écoute. Sur ce, c'était Amy Bois et Alex Tremblay-Lamarche à l'animation. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous accompagner dans ces capsules historiques. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, le printemps dure pas longtemps. Avray dadi, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, hop de la de Avray dadi, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, hop de la de Assis sur le banc de mon tour rouge, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. Avradidadi, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, hop de la de Avradidadi, l'été c'est tellement bon quand t'as la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans t'inquiéter. Pour le fils d'un patron, c'est les vacances. Pour la fille du restaurant, c'est les sueurs pis les clients. Avradidadi, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, hop de la de Avradidadi. On dit que l'hiver est blanc comme un nuage, mais ça évidemment dans le chalet près du foyer. Dans le fond c'est salissant pour esquiller le chauffage. Y'a pas pire moment de l'année quand t'es pris pour tant d'été. Avradidadi, vradi, de l'homme, hop de la de l'homme, hop de la de l'homme, hop de la de l'homme, de la de l'homme, de la de l'homme, de la de l'homme, de la de l'homme. La
Faut que je m'en retourne dans mon trou, que creuser ma peine. J'ai vu le surintendant, je peux rien dire en attendant. Le jour où ça sera nous qui ferons la fête. Imaginez le printemps quand l'hiver sera vraiment blanc. D'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, printemps dure pas longtemps. Heureux de printemps, qui me chauffe la couenne. Triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, printemps dure pas longtemps.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre chemin,